J'ai remarqué que quand tu as discuté un petit peu l'exposé de Vanda, chasser le naturel et revenir au galop, tu as systématiquement à plusieurs endroits remplacé analogie par conception, et en particulier de concepts quotidiens et de concepts scientifiques, en essayant un petit peu de les comparer. Et comment ça s'intègre dans la vision analogique? Le fait de se ramener, parce qu'au fond, c'est peut-être le langage courant de bien des didacticiens, par exemple, hein, de parler de concepts scientifiques et de concepts quotidiens, de voir comment les uns font obstruction aux autres, par exemple. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, c'est ce que dit Bachelard, au fond, et bien d'autres. Comment ça s'interprète en termes purement analogiques?
Ok, alors bon, déjà j'ai utilisé les termes justement pour avoir ce langage commun, donc c'était aussi volontaire. Je comptais le développer plus demain dans ma réaction, mais peut-être en deux mots. Ta question, c'est concept quotidien et concept scientifique? D'accord. Parce que dans ce cas-là, les concepts quotidiens, ce sont les sources, ce sont des sources d'analogie. D'accord. Et donc, lorsque on trouve une analogie, comme par exemple soustraire, c'est retirer, ou multiplier, c'est itérer, eh bien on voit qu'il y a un concept quotidien qui est par exemple le fait d'enlever quelque chose, dans l'autre cas c'est le fait de répliquer. D'accord? Donc on peut à chaque fois identifier une source à l'analogie et cette source va permettre de rentrer dans les interprétations des élèves. Donc je ne sais pas si c'est assez précis pour toi comme réponse.
Je peux ajouter quelque chose? Alors, il y avait là-dedans aussi autre chose. On est parfaitement d'accord que quand les analogies sont implicites, du type on se fatigue en travaillant, et donc du coup les électrons, on va mieux comprendre ce qu'ils font quand on les représente sous forme de bonhomme ou de bonne femme. Alors, d'une part, il y a là-dedans de l'anthropomorphisme. Et cet anthropomorphisme, bon, il peut être rassurant, hein, du type n'ayez pas peur de courant électrique, ce n'est que de bonne femme verte. Bon. Et je ne sais pas si c'est vraiment un service à rendre aux travailleurs dans les bâtiments qui font le circuit électrique, surtout qu'eux, ils suivent des modes d'emploi extrêmement précis, avec beaucoup de critères qui sont très, très techniques. Et donc, du coup, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin des petites bonnes femmes, parce que ça ne leur sert pas directement. Mais peut-être que les aspects émotionnels sont importants. Le problème, c'est qu'après, dans la diffusion, ça diffuse dans les écoles et ça diffuse aussi dans des collèges. Et je sais que d'une part ça fait rigoler, mais d'autre part, comme c'est joli, ça se mémorise facilement. Et après, ça construit l'obstacle. Et comme l'obstacle, il n'a pas besoin de ça pour être résistant à l'enseignement. Alors du coup, ça peut faire problème. D'autre part, nous sommes parfaitement d'accord que si on veut des analogies de structure pour que ça puisse fonctionner, il faut les travailler. Mais moi, je l'ai peut-être mal dit, hein, mais c'est dans la présentation. Pour ça, il faut du temps. Or, dans l'enseignement, dans les programmes, aussi bien au collège qu'au lycée, on n'a pas le temps pour justement travailler ça. Et donc, du coup, les analogies très locales, et qui justement apporte quelque chose, là tu me demandes ce que ça apporte, apporte des choses là où il n'y a pas d'obstacle. En revanche, renforce l'obstacle là où il existe déjà. Ah ben moi je pense que là du coup, ce n'est pas le temps bien utilisé, malgré que ces analogies peuvent être plaisantes. Et autre chose.
Ma réaction, c'était simplement de faire le pour et le contre. Hein. C'était
Ah
pas du tout une prise de position en
oui.
faveur de ces analogies.
Ouais,
C'est juste
non, mais
de
là
ne
on est
pas
d'accord. Là,
pointer uniquement
on est
ce qui est
d'accord.
négatif.
Ouais. Et d'autre part, Bon, tu as dit avec raison hein, que je surtout parlais de ceux qui n'allaient pas dans les analogies. Mais si, j'ai bon. Hein, je parlais aussi de l'analogie de chaîne de vélo et des petits trains, où là, ce sont des analogies où il y a des choses qui vont bien, mais elles sont locales. L'analogie globale, ça n'existait pas, et d'ailleurs, bon, ça ne peut pas. Un circuit électrique n'est pas quelque chose qui fonctionne exactement de la même manière, ou suffisamment de la même manière qu'autre chose, et en plus, qui serait beaucoup plus facile à maîtriser et à interpréter.
Il y a quelques minutes, vous avez dit que les concepts quotidiens sont les sources de l'analogie. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que certains concepts scientifiques peuvent donner accès, enfin, peuvent aider à voir des analogies ensuite ?
Bien sûr que si. C'est-à-dire qu'en fait, le principe des analogies, c'est que tout concept peut être une source d'analogie. Donc à partir du moment où un concept est suffisamment développé, c'est une source d'analogie potentielle. Évidemment, nos concepts de la vie quotidienne sont particulièrement bien placés parce qu'on y est particulièrement familier, on a une grande confiance finalement en leur pouvoir inférentiel. Mais à partir du moment où on a développé une expertise dans un domaine, tout concept dans lequel on a commencé à développer une expertise est une source d'analogie potentielle. Un cas que je trouve particulièrement parlant, on a pris quelques exemples venant des technologies numériques, c'est que on est en train de voir le moment où les technologies numériques deviennent elles-mêmes des sources d'analogie pour le monde matériel. Et donc, par exemple, un prof qui peut dire à ses élèves, il faut que vous connaissiez votre cours comme si vous l'aviez téléchargé dans votre tête. D'accord. Et ça, c'est l'exemple typique du changement de statut potentiel d'une source ou d'une cible d'analogie. Donc, quand on dit concept quotidien, c'est pas tellement que ce sont les seules sources d'analogie potentielle. Ça indique simplement le fait que dans la mesure où ils sont solidement et profondément ancrés, ce sont des sources d'analogie privilégiées. Mais ensuite, chacun, il y a différentes sources possibles, bien entendu, en fonction de son expertise.
Oui. Quelqu'un a levé la main ou... C'est ça ?
Merci. Voilà, je voulais un petit peu donc expliciter... ce que les Maliens en fait ont essayé de premier point donc ce que les Maliens ont appelé la pédagogie convergente. Alors c'est une pédagogie en fait qui s'appuie sur ce qu'ils appellent un bilinguisme fonctionnel, c'est-à-dire le langage local et sa traduction en fait, enfin son lien en fait avec la langue française qui en fait est la langue usuelle. Donc c'est un alors fonctionnel pourquoi? Parce qu'en fait c'est un langage qui est utilisé en situation. Par exemple en mathématiques il y a une c'est aussi couplé avec une approche par compétence qui est maintenant très à la mode dans tous ces pays donc d'Afrique subsaharienne. Donc la compétence c'est lire et utiliser un langage. Donc, lire et résoudre des problèmes et utiliser un langage. Donc, en fait, il faudra résoudre la situation dans le langage local et pouvoir la communiquer, en fait, en langue naturelle, puis en langue mathématique. Donc, en fait, on suppose que cette méthode, qui a été assez bien développée, développée en termes de descriptif par Traoré, on ne sait pas si elle a vraiment été mise en œuvre, mais enfin, en tout cas, elle a été explicitée par des textes officiels. Alors, par contre, les mathématiciens n'ont pas trop... Enfin, les enseignants et les pédagogues mathématiciens n'ont pas trop réagi, mais Maurer, qui est un didacticien du français, réagissait assez rapidement en disant qu'il fallait absolument qu'il y ait un approfondissement d'un point de vue didactique, parce que l'idée... qui était quand même à discuter, qui était à contextualiser, c'est que tout enfant qui apprend a un cheminement cognitif, et ce cheminement cognitif, il est isomorphe qu'on apprenne la langue naturelle, la langue locale ou la langue mathématique. Et il y avait quand même un sérieux petit problème. Enfin, il y avait des questions à se poser à ce niveau-là.
D'accord. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'ethnophysique? Ou peut-être qu'il y en a d'ailleurs. Alors, mais
physique.
Est-ce que ça existe?
Oui, certainement.
Oui.
Je pense que. En tout cas, il y a l'ethnomusique. Enfin, par exemple, Chemillier, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les arts, donc il s'intéresse à d'autres activités que les mathématiques. Enfin, non, parce que la musique, c'est aussi mathématique, en fait. Non, c'est vrai qu'il voit des mathématiques dans les pratiques musicales. Je ne peux pas répondre à la question, mais je pense qu'elle doit exister, oui.
OK.
Et en ce qui concerne la question de la mathématisation, ou la question des concepts, oui, enfin. L'analogie qu'utilise l'ethnomathématicien pour décoder donc dans des pratiques mathématiques les idées mathématiques, on peut supposer que c'est une mathématisation donc analogique de haut niveau qui effectivement fait référence à des structures formelles, à une culture mathématique occidentale et formalisée. Quand les ethnomathématiciens par contre ethnomathématicien ou pédagogue envisage d'utiliser les pratiques culturelles comme levier d'apprentissage et d'enseignement, il y a deux hypothèses d'une part. L'hypothèse revendiquée par Bishop, c'est que l'articulation entre enculturation, c'est-à-dire prise en compte d'un minimum de la culture endogène et acculturation, est nécessaire pour au moins mobiliser les compétences de l'élève. Mais ce sont des suppositions, parce que ce que j'ai lu était en anglais et j'ai parfois interprété, et c'est bon aussi ma façon de voir qui n'est pas forcément anglo-saxonne. Et la deuxième hypothèse, c'est que effectivement, par exemple, je reprends les travaux de Traoré et Bettnarz qui concernaient les capacités en calcul mental de ces vendeurs et acheteurs sur le marché au Burkinabé. C'est vraiment leur capacité en calcul mental, c'est-à-dire les techniques mentales qu'ils ont pu déployer, en référence par contre à un contexte qui leur permet d'assurer qu'on pourrait, mais je ne pense pas qu'ils l'ont fait, qu'on pourrait s'appuyer sur cette expertise en calcul pas décimal, entre autres, pour pouvoir adapter quelque peu le curricula. Alors la question, c'est, doit-on arriver à un corpus mathématique complètement dépersonnalisé, décontextualisé, un corpus mathématique occidental, en quelque sorte? La question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, est-ce qu'on peut? Donc voilà ce que j'avais un peu à rajouter.
Okay, merci.
Ce sont des questions qui sont abordées par les sociologues, les approches sociologiques.
Pardon?
Ce que vous évoquez dans le contexte africain en particulier, on va retrouver exactement la même chose dans des approches sociologiques,
oui,
qui posent la question de la culture familiale, etc., des tensions, mais avec ce débat que vous avez évoqué un peu, qu'on va retrouver en didactique des langues, quelle place je dois donner à la langue maternelle, aux langues maternelles dans le cursus? Est-ce que c'est simplement les faire coexister? Est-ce que c'est s'appuyer sur l'une pour aller vers l'autre, etc.? Et puis la question, moi, que je peux poser en vous écoutant, c'est quelle mathématique enseigner? Est-ce que c'est des mathématiques à finalité pratique qui peuvent éventuellement, dans un univers complètement différent des mathématiques de référence, ou est-ce que c'est des mathématiques qui vont permettre à ces étudiants, par exemple, de réussir les exercices de mathématiques qu'on va leur demander pour valider des compétences dans notre monde? Et je pense que ça pose aussi une autre question, c'est la question de un peu le travail qu'a fait Laurent, c'est-à-dire de remettre en question ce qui apparaît comme des universels et des avant de soi. Et ça, c'est très intéressant, d'ailleurs dans la formation, mais aussi dans une réflexion sur les fondamentaux. Ça pose aussi la question, moi, en écoutant Laurent, c'est ça qui m'a frappé, parce que c'était assez compliqué. Il y avait, enfin, moi, je ne suis pas spécialiste du tout, mais entre nombre, chiffre, nom du nombre, et notation du nom du nombre. Et puis il me semble qu'on n'est pas simplement là-dessus, il y a vraiment des opérations, c'est-à-dire des manières de faire des calculs, par exemple savoir, quand évoquer le fait de reconstituer le tableau avec les étudiants, ça me rappelle les élèves de maternelle qui, lorsqu'ils doivent compter, ils reprennent la comptine numérique depuis le début, ils ne savent pas trop ce que c'est un nombre, mais ils font des additions avec la comptine numérique. Donc en fait, entre... Alors là, je m'avance sur... La notion de nombre comme concept, la notion de nombre comme projetée dans des formes sémiotiques, orales, écrites, voire dans des opérations compliquées, c'est pas la même chose de poser des additions, de compter sur les doigts, il me semble que là, il y a des choses qui sont... Et ces objets ne sont pas séparés, ils sont vraiment très intriqués, on a l'impression que le nombre est pour exister dans la tête. Là, je me tourne vers le psychologue en me disant, est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est pas séparable d'éléments qui sont dans le corporel et qui sont très lourdement engrammés? La preuve, semble-t-il, on constate en apprentissage des langues que c'est comme ça qu'on identifie quelqu'un, on le fait faire des calculs. Si on veut savoir s'il est vraiment, par exemple, l'espion qu'on l'a saisi, là, on ne le torture pas, on lui fait faire des calculs, il est obligé de calculer dans sa langue maternelle, parce qu'il ne peut pas faire des opérations en particulier quand il ne se surveille pas. Donc il y a des choses de cet ordre que j'entendais dans des... Après, je ne suis pas eu la peine à faire le lien entre ta proposition et la question d'analogie. Tu mettais analogie les types d'opérations qui se faisaient en base 10 et puis celles qui se faisaient en base 7. Il y avait une autre question intéressante, c'est ce qu'apprenaient tes étudiants sur les maths, sur l'apprentissage des maths, sur les difficultés des élèves. Il me semble qu'il y avait une analogie pour le coup entre la situation dans laquelle tu les mets et la situation dans laquelle sont supposés être les élèves quand ils font des erreurs avec le zéro, etc., avec la virgule, enfin ce genre de choses. Ça me faisait penser dans le domaine qui est le mien, c'est par exemple quand on demande à des étudiants. On leur demande de déchiffrer un texte en le plaçant dans un miroir. Bon, on espère de dénaturaliser la lecture habituelle pour essayer de leur donner les mêmes, dans la même situation que des élèves qui déchiffrent une langue qui leur est inconnue. Pour ça, par exemple, on leur demande de lire un texte à l'envers, on le met dans un miroir, on supprime un certain nombre de lettres pour les mettre dans une situation de déchiffreur, en découvrant une situation pour être totalement capable. Alors, il y aurait une analogie entre...
Oui, non, mais c'est ça. L'idée est exactement celle-ci. Alors, il n'y avait pas vraiment de difficultés des élèves qui vont fréquenter après dans leur futur métier, parce que là, on était quand même assez loin de ce qui se passe. Non. Mais, oui, Avassi, mais non. C'est-à-dire que c'était pas en jeu dans la... Pour eux, voilà. Mais c'était pour les confronter, évidemment, à des difficultés que leurs élèves auront plus tard. Mais dans la situation dans laquelle ils étaient, ils ne le savaient pas. Et je leur ai dit après. Mais sur le coup, ils ne le savaient pas. Et puis, c'est pas tout à fait les mêmes difficultés non plus, parce que, contrairement à des élèves, eux, ils maîtrisent quand même plutôt bien la base 10. Donc, c'est vrai que la situation est quand même assez différente. On essaie de mettre dans une situation à peu près identique, mais qui a quand même des caractéristiques vraiment très différentes. Mais malgré tout, il y a cette nécessité qui est un peu brutale pour eux, hein, parce qu'ils ne comprenaient rien. Hein. Et de ce qu'ils ont appris, pas tous, hein, déjà, mais oui, je pense que cette idée de squelette conceptuel, je pense que c'est intéressant, ça, cette idée de squelette conceptuel, c'est... En fait, ils ont été au-delà de la base 10, et ils comprennent mieux la base 10, parce qu'ils sont capables de reprendre exactement, voilà, c'est ça l'histoire du copycat. Ils ont repris les choses de la base 10, mais sans hybridation, en fait. Et en faire fonctionner les mêmes choses, parce que c'est les mêmes, c'est la même situation derrière, au-delà des signes qu'on voit. Mais il y a quand même eu un épilogue qui marque quand même les limites. J'avais été très ambitieux. Hein, là, j'avais fait une deuxième séance, comme ça avait plutôt bien marché, j'étais très enthousiaste, et je leur ai montré, j'avais fait la même chose, la même situation, mais pas dans une base usuelle de numération. C'est une base de numération qui s'appuie sur la base de Fibonacci. Alors, c'est quand même... Voilà. Oui. Oula. Alors, y a que des 0 et des 1, et jamais de 1 successif. En gros, c'est ça, hein, pour aller un peu vite. Et j'avais été encore plus loin... C'est que j'avais mis ni 0 ni 1, mais j'avais mis des points et des barres. c'est pas très loin de 0 et 1, mais c'était quand même pas les mêmes chiffres. Ça a été le fiasco total. Au bout d'une heure, j'ai jeté l'éponge, on a fait autre chose. Mais il y avait quand même derrière, parce que moi je le voyais, le squelette conceptuel. Je savais que c'était la même chose qu'il y avait derrière. Mais c'était trop loin pour eux, et eux, ils ne le voyaient pas.
Oui, je voulais ne pas parler d'analogie ce soir, parce que je dois intervenir demain en fin de journée, mais juste dire deux points, puisque Laurent Vivier vient de parler, en écoutant son exposé. Alors, je me suis dit qu'à propos de la base 10, ils avaient presque découvert, apparemment, que pour ordonner des nombres, on regarde le chiffre, le premier chiffre, disons, de l'écriture, on compare avec le premier de l'autre nombre. C'est une grande découverte. Ce qu'ils n'ont peut-être pas vu, c'est pourquoi. C'est-à-dire que si le premier chiffre est 3, et que, avec la même longueur, bien sûr, et l'autre est 2, quoi que ce soit qui viendra après le 2, ça ne pourra pas rattraper. Bon, ça, c'est quand même absolument fondamental. Alors, moi, je ne dis pas qu'une personne a compris la numération en base 10, bon, si ça n'est pas devenu clair pour elle, ça. C'est un phénomène fondamental. Bon. Alors, deuxième point, en t'écoutant, je me disais, je rêvais un petit peu, qu'est-ce que ce serait bien si tu avais pris des bases supérieures à 10, n'est-ce pas, où il y a des lettres qui apparaissent. Ça liquide tout un tas de problèmes. Enfin, on peut dire je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est clair qu'on ne comprend pas. Et si on comprend, c'est assez clair qu'on comprend. Et puis, au passage, moi, je dois dire que j'aurais évidemment utilisé... Alors, je leur ai fait utiliser ce que la société autour d'eux a construit, c'est-à-dire des logiciels qu'on trouve sur Internet gratuits qui permettent de convertir d'une base dans l'autre, quelle qu'elle soit, et dire est-ce que vous pouvez retrouver ça, par exemple, au bout d'un certain temps, hein, bien sûr. Mais vous voyez que ça se fait, etc. Bon, c'est ça que je voulais dire. Ça me paraît extrêmement intéressant, mais évidemment, si on reste bloqué... À part ça, la dame qui parlait de la famille malheureuse là, qui avait perdu une enfant, elle est là, non? Elle n'est pas là? Non, parce que justement, il fallait faire travailler en base 3. Ça permet d'éviter le chiffre 3 dans tous les cas. Hein, bon. C'est un petit conseil pédagogique. Alors, je vais juste ajouter un mot sur l'ethno-mathématique. Pas sur l'ethno-mathématique, mais sur le mot ethno-mathématique.
Juste un petit mot, oui. Parce qu'on passe à autre chose. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Juste pour préciser, le fait que ce ne soit pas une base plus grande que 10, c'était fait exprès. Parce que je me suis rendu compte, avec le travail que j'ai fait avec le collègue grec, qu'il y a une difficulté cognitive qui est vraiment extrêmement forte. Et je me doutais bien que, je ne l'ai pas fait, hein, mais que si je posais ça, c'était la catastrophe. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas y arriver. Alors, c'était d'autres objectifs qu'on pouvait avoir. Mais ça changeait. Mais c'était volontaire.
Non, j'entends bien. Alors, mais idéalement, ça pourrait être un test quand même, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est construit, enfin, entre l'enseignant, disons, le formateur, et puis ses étudiants.
Je l'ai posé en évaluation, un petit truc, un peu plus tard. Sur la base 12, ça devait être la base 12. Ah, et oui, il y en a quelques-uns qui ont, pas tous, hein, pas la majorité bien sûr, mais il y en a quelques-uns qui ont ajouté des alpha ou des A. Il y en a qui ont mis des 1-0, mais entre parenthèses, d'autres qui ont mis un petit espace. Alors quand l'espace est petit, on ne voit plus rien. Donc, mais il y a des choses qui émergent. On peut travailler là-dessus, effectivement.
Oui. Oui, je dois dire que moi, je ne considère pas que ce soit mal, scandaleux, vicieux, quand on regarde un problème, de se dire, et la société, qu'est-ce qu'elle en dit de ce problème, n'est-ce pas? À savoir qu'on va utiliser des lettres, par exemple. Bien sûr, on peut utiliser autre chose, des cubes, des carrés, des ronds, etc. Bon, voilà. Non, je passe donc là-dessus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Sur ethno-mathématiques... Alors d'abord, il y a un problème en français comme dans d'autres langues qui est qu'un même mot, par exemple, si vous dites géographie, ça peut être la science géographique du professeur de géographie, mais ça peut être la géographie de la France ou la géographie de Rhône-Alpes, etc. C'est-à-dire c'est à la fois l'objet étudié et l'étude de l'objet. Alors dans ethno-mathématiques, est-ce que c'est des mathématiques ethno, etc. Évidemment, il y a une espèce de clarification à réaliser. Par exemple, dans certains travaux, elle a cité Asher, hein, Martha et son mari. Bon, bien. Martha Asher, elle montre que les relations définissent les relations, est-ce qu'on peut épouser un tel et un tel dans telle population australienne, disons, on peut les modéliser, ça c'est un matheux qui fait ça, par un groupe dihédral d'ordre 8. Bon, on peut faire ça, mais vous pensez que quel est le lien avec... Mais vous savez que ça a déjà été fait par Lévi-Strauss, enfin par André Weil, disons, par Robert Jolin, par tout un tas de gens, par Philippe Courrèges, que les matheux connaissent, je passe rapidement. C'est tout à fait bien de faire ça, hein. Moi je trouve ça très très bien. Bon. On modélise mathématiquement des créations humaines de diverses cultures. Bon. De là à dire... Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces mecs ? Moi, je ne le fais pas. Parce qu'alors, quand je me déplace dans la pièce, il faut que vous admiriez ma maîtrise totale de la dynamique. Hein. F égale MA. Hein. D'accord ? Vous voyez ? Ça revient à dire ça. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire me prêter des connaissances que vous devez utiliser quand vous êtes physicien pour modéliser mon comportement mécanique, je dirais, hein. Bon, pas forcément physiologique, par exemple, etc. Donc là, il y a un problème. Mais c'est un problème assez clair, quoi. On va modéliser des trucs. Au passage, il y a des cultures qui n'aiment pas trop qu'on aille fouiller dans certains recoins, parce que c'est sacré, parce que c'est, ou c'est obscène, par exemple, etc. Dans leur culture, on a le droit de penser autre chose. Mais il faut savoir que... Alors, maintenant, j'ai évoqué ce point à la pause, bon... maintenant, il y a autre chose. Il y a effectivement, et je crois que on l'a vu dans... Enfin, Marie-Pierre en a parlé, ce que j'appellerais des mathématiques pratiques, ou des choses que nous identifions comme mathématiques, qu'on appellera des mathématiques pratiques. Au passage, quand tu présentes à propos de Pythagore, hein, je suppose que tu as fait le truc de tout mathématicien qui se respecte de dire je vais démontrer que c'est pas évident du tout. C'est une heuristique par des airs. Vous savez qu'il y a un fameux contre-exemple de Lewis Carroll là-dessus, bon, où on croit que deux choses ont la même aire et en fait c'est pas vrai. Hein, il y a une aire au milieu très longue, bon, etc. Par conséquent, il y a des pratiques, mais on n'a pas à se laisser obséder. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une humanité. Que les hommes et les femmes sont à cet égard tous pareils potentiellement. Même s'ils ont développé ou pas développé certaines choses. Je ne vais pas me laisser fasciner par le fait que c'est des papous de Nouvelle-Guinée ou des paysans bosserons, etc. Ce sont pour moi des humains, tout simplement. Bon. Alors, on va aller regarder ces choses. Et par exemple, on va dire, du point de vue... quand même largement partagé sur la planète des mathématiciens, il manque un petit truc pour que ce soit démontré. Maintenant, en France même, il y a énormément de gens qui utilisent des choses qui, pour eux ou elles, ne sont pas démontrées et qui sont des mathématiques pratiques. Alors, je laisse de côté les mathématiques que j'appellerais implicites, celles que le mathématicien, pas forcément occidental, parce qu'il y a des mathématiciens maliens, il y a des mathématiciens inuits. Hein. Nadine Bénard, elle a une grand-mère inuite, hein, au passage. Bon, elle n'est pas complètement, mais enfin, je vous signale si vous ne l'aviez pas en tête. Bon, les mathématiciens vont dire, ah ben là, il faut, c'est pas complètement démontré. Des choses pas complètement démontrées, il y a de très beaux exemples dans l'histoire des maths. Hein. Tout le monde connaît l'histoire des fonctions continues non dérivables, enfin qu'on croyait dérivables, mais il y a des choses beaucoup plus élémentaires que tous les traités, les manuels de maths du 19e siècle, dont ils fournissaient une démonstration qui était, on peut dire, fausse, moi je dirais incomplète, c'est-à-dire elle c'était pas concluant, il manquait quelque chose et ils ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qui manquait. Bon. Il y a une discussion, par exemple, entre Dedekind, qui est le mathématicien moderne, et Steiner, qui est un grand géomètre, mais d'une autre génération, et Dedekind n'arrive pas à faire comprendre à Steiner que sa démonstration ne tient pas la route. Bon. Et il faudra plusieurs générations pour qu'on y arrive. Voilà, ça c'est un aspect. Alors maintenant, il y a eu une question de Emmanuel Sander sur est-ce qu'il y a une ethnochimie. Alors, il y a une ethnopharmacologie. Il est évident que les ethno-mathématiciens, du moins ceux que je connais, ont une énorme culpabilité pour ce qui a été fait à des cultures qui ne sont pas occidentales, en effet. Ce que je comprends parfaitement. Ou un ressentiment, comme dans le cas que j'ai cité d'une chère collègue québécoise qui appartient partiellement, par sa filiation, à un monde qui a été constamment méprisé, détruit, etc. Je ne veux pas en dire plus, mais j'ai vu des choses, moi, quand je suis allé au Québec là-dessus. Bon, je dois dire qu'ils m'ont surpris, hein, du point de vue de l'espèce de mépris absolu pour les Inuits. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, je comprends ça. Mais sachez que les ethnopharmacologues, ils vont voir s'il n'y aurait pas, par hasard, des molécules intéressantes pour faire du fric. Enfin, peut-être pas le chercheur qui croit ce qu'il fait, mais celui qui l'envoie en mission, les grandes compagnies de fabrication de médicaments, etc. Autrement dit, ça ne va pas dans un sens, quoi. Il y a une ethno-science. Alors, justement, c'est là qu'on retrouve l'ambiguïté, est-ce que l'ethnoscience, c'est celle, je vais dire, des autochtones, ou c'est la science de ce que font les autochtones que construisent des chercheurs western-like, je dirais en anglais. Pas des occidentaux, mais des occidentalisés, vous voyez. D'accord, qu'ils soient coréens, de Malaisie, etc. De la Terre de Feu, bon. Ils ont été à l'université, ils ont appris de la chimie, ils ont appris de la pharmacologie, etc. Donc, c'est une question très difficile. Pourquoi ? Parce que les chers collègues qui se sont engagés là-dedans l'ont fait avec une passion qui n'était pas entièrement une passion pour la science, disons. Tout à fait légitimement. Mais il y a un parasitage des problématiques par ces choses-là. Notamment chez Gerdes, hein, qui est, je l'ai dit, bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Relativement jeune d'ailleurs, enfin, à mon sens. Bon, peut-être pas pour le reste. voilà. Donc ça, ce sont des questions un peu importantes. Hein, importantes. J'ai essayé de tenir jusqu'à la limite, c'est fini.
Ah, ben je vous remercie.
Est-ce qu'on a le temps pour une blague?
Ah, on a toujours le temps pour une blague.
Et après, je voudrais vous poser la question, surtout à Emmanuel. Pourquoi est-ce que j'ai la mèche? Parce qu'il y a une analogie des gens.
Oui, j'espère.
Ça va être en anglais, je suis désolée, ça ne peut pas être autrement. Mais s'il est faux, je traduirai. Mais pourquoi je ne veux pas? Oh là là! Non.
C'est animé?
Et oui, c'est allumé, mais comme ce n'est pas un PowerPoint, du coup, il ne veut pas me faire bureau étendu. Sorti vert. Ben, il a bureau étendu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Essayons de faire ça. Est-ce que ça montre quelque chose? Non. Oh, je ça. Bon, non, tant pis. Si, 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 mais je vais la mettre dans PowerPoint, et comme ça, elle va pouvoir se faire. Attendez, on va ajouter... Là, maintenant, ça devrait marcher. On va ajouter une nouvelle... Une seconde. Ça va aller. Ok. Voilà. Alors, vous avez un panda qui entre dans un café, qui prend un sandwich, qui le mange, il sort un pistolet, voilà, et il tire. Mais le garçon demande pourquoi, et panda lui montre un guide de la vie sauvage, et lui jette ça, et dit « Je suis panda, regarde ça, voilà ». Et le garçon voit le guide, voit l'entrée qui convient, et dans l'entrée, tout est expliqué, à savoir panda, grand, noir et blanc, ressemblant à un ours mammifère, originaire de Chine. Voilà. Et après, c'est en anglais, ben voilà, parce que ben voilà, si vous lisez ça comme c'est écrit, ça veut dire mange, tire du pistolet et s'en va. Et s'il n'y avait pas eu de virgule, ça voudrait dire mange les pousses et les feuilles. Voilà. Et donc, c'est un bouquin, donc là vous avez la référence sur la ponctuation en anglais où il y a pas mal de blagues comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de situations où les gens écrivent justement en se moquant un peu de ponctuation, et ça veut dire parce que ça veut dire. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'amène ça?
Ça, c'est à Emmanuel.
C'est Emmanuel, et qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel?
Je pense que c'est une référence au marquage.
C'était vos cafés.
Oui.
Il y avait une virgule dans vos cafés qui faisait que justement entre 3 cafés et 6 cafés. C'était pour moi, c'était la virgule qui pouvait décider, et pas l'essence du mot café-crème.
Je pense que la virgule préservait l'ambiguïté, justement.
Ouais. Non, mais en français, peut-être. En français, vous avez bien compris, c'est une langue étrangère pour moi, et donc, du coup, je ne maîtrise pas toutes les subtilités de virgule en français.
Oh, oui.
Mais...
je pense que ça se complique, parce qu'en fait, à l'oral, ouais. Il y a des formes de ponctuation, etc., qui peuvent jouer, mais là... Ça ne pose aucun problème.
Ouais.
3 cafés, virgule, c'était... Est-ce que c'est 3 cafés, 2 points?
Oui.
Voilà.
3 cafés et voilà. Et là, on est en plein.
Oui. Non, mais moi, je ne dis pas que la virgule, elle était fausse, non. Mais la virgule, justement, elle apportait l'ambiguïté. Si c'était 2 points, c'était clair. S'il n'y avait pas 2 points, il y avait... C'était clair.
En tant que linguiste, je remonte un peu, je voulais dire quand même que les situations d'ambiguïté sont plus
oui, c'est toute la beauté,
naturel,
hein.
Le naturel de la langue, que les situations inverses. Ouais, c'est tout ce que je veux dire.
Emmanuel, est-ce que vous m'en terminez là?
Oui, oui.
Marc, à propos de ça, justement, dans la vraie vie, moi j'entends des choses comme ton, deux lontains, je sais ce que ça veut dire.
Oui, 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 c'est ça.
Pardon, je ne voulais pas être désagréable. Oui. Non, j'aime beaucoup ça.
Oui, comme le dit Yves, c'est une remarque importante. C'est vrai que dans le vocabulaire professionnel, le marquage, comme ça pose des difficultés, on va dire deux dont un. Et comme ça, on distingue la catégorie superordonnée de la catégorie spécifique.
Là, je voudrais te demander, c'est une expression que vous avez créée à titre d'exemple ou que vous avez prélevée dans un contexte?
Sur le café? Alors je l'ai créé et testé à la cafétéria. Ça m'a coûté un peu d'argent.